Dans son essai sur la lecture, Marcel Proust nous dit en effet que l'amitié qui a égard aux individus est une chose frivole et la lecture est une amitié, mais du moins c'est une amitié sincère. Le fait qu'elle s'adresse à un mort, à un absent, lui donne quelque chose de désintéressé, de presque tout sens. Comme pour nous apprendre que la lecture est aussi ce que Michel Gavier appelle une forme de résistance, parce que souligne-t-il, tous les grands livres sont porteurs d'avenir, de révolte et de rêve. Alors, comme promis dimanche dernier, je vais continuer avec la lecture de ce livre combiné passionnant, bouquiné, autobiographie d'Annie François, un livre qui a été publié en février 2000 aux éditions du Seuil. Pour le deuxième chapitre, ma page. Sans être spécifique, je ne saurais tourner les pages. Je ne peux pourtant me résoudre à depuis le fil, cette habitude de lire franchement les livres, sauf plus qu'on me prête d'en casser le dos, de les poser en action très complète. Je vais les couvertures rigides, qui me toujours qu'une lecture parfumeuse et dont l'impeccable alignement dans la bibliothèque donne une impression de jamais lu. Le matin, dans le métro, je laisse au livre le soin de couvrir là où je suis. Et dans mon tête, j'entame ce que je lis la veille soir dans un semi commun. Un sursaut de l'histoire me fait avancer le visage. Je trouve, je reviens dans la vie, je me je suis à l'œuvre pour trouver une distraction. La chitane de l'être, le premier client par exemple de vous déranger, le plus chômeur de l'histoire. Je sens ma pièce, le sang du collier de la vie. Et je m'abonne, plus tard. Un air d'accordéon, plein, haut, où le prochain bonbon, le roquement est ici, m'arrache à ma lecture. Je change de ouragan, plage à cette page perdue. Pas question non plus de les annoter. Or, j'ai parfois besoin de repères. Donc, en marge de la ligne fautive ou de l'expression mémorable, je donne un coup d'angle appuyé et passe pour folle quand je finis mon bouquin en tout sens ou le tâtant du bout de droit tel le lecteur du braille, j'essaie de déceler le trait embourbé dans le tissu du papier. Je n'aime pas ce signe, mais c'est un truc qui trahit ce qui est possible. Je n'ai plus le matin, mais mes livres sont soumis d'articles, de vieilles lettres, de listes de courses, de vieux doublements de leur histoire et de la vie. À la technique, Willems Joseph, la présentation signée Willems Jean-Pierre, Charles William Pierre, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Hubert.
Bonsoir Pétitoire, bonsoir Mandy, bonsoir Willems, bonsoir à tous les auditeurs de l'événement.
Place rapidement à la visite attribuée avec Hubertson pour les petits derniers.
Merci de la compétition dans cette édition d'attribuer. Je vais parler de prix littéraire. Vous savez sûrement la nouvelle, en fait, la nouvelle, et le petit mot dernier a reçu le début d'année le prix Nobel de la littérature pour l'ensemble de son œuvre, bien entendu. Et ce sujet du 9 octobre, à partir de 13h, 7h du matin à la salle, c'est le jury du prix Nobel, jury de la famille suédoise, du prix Nobel de littérature, a décerné son 1000e prix. Du prix Nobel de littérature aux Français, Patrick Modiano, Théophile en France, de gens par la même, de tous les jeunes qui vont chanter la voix de ce prix Nobel de littérature. Le dernier est né en France vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 30 juillet 1945, grand ami du surréaliste Raymond Queneau, qui publie son premier roman, La Perte de l'Étoile, en 1968, chez Gallimard, sur le conseil de l'auteur de l'exercice de style, dans le plan Raymond Queneau, auteur consacré dès 1962 par l'Académie française, qui lui octroie son grand prix pour le boulevard de Saint-Cyr par le chez Gallimard. Modiano est, à côté de Philippe Labrosse, Jean-Marie Gustave Le Clébio et Annie Arnaud, l'une des plus grandes stars de la littérature française contemporaine. En 1978, il a entré le grand prix de l'Académie française et recevra le prix Goncourt pour le prix des boutiques obscures. Le dernier roman du Patrice Modiano est paru chez Gallimard. Eh bien, pour que tu ne te perdes pas dans le. Et pour approfondir un petit peu sur Patrick Modiano, si vous avez l'impression d'aller découvrir cet auteur, il vous mettra quelques titres sur la perte de l'étoile, les besoins de peinture, la piste, l'horizon, le plus vivé, fin de printemps et le jour de l'étoile. Cette année a été déférée à un invité, à un Daoud, pour son livre Meufol, contre un texte, un livre paru ou réédité par les éditions Actes Sud cette année, au début de l'année 2014. Et Kamel Daoud a reçu le prix des 5 continents de la francophonie. Je signale que l'écrivain de Maurice Marcetaoul a reçu ce prix dans la remise qui a eu lieu en Haïti le 24. Toujours pour parler de prix, cette fois-ci, on parle de la deuxième sélection du prix féminin, c'est une nouvelle qui nous concerne, puisque Yann Sahin est toujours candidat pour le prix féminin cette année. Il y a donc 9 romans français, Yannick. Classé parmi encore cité parmi les 9 romans français qui sont en pour le prix féminin de 2014. Je signale l'ensemble de titres, les 9 romans français, l'homme qui marche de Yves Boucher, Retour volé de Dominique Fabre, Jean-Joseph de Marie-Hélène, Gangline de Yannick Lange, L'autoroute de Luc Lange, et pour finir, Retour du monde. De Laurent Mauvin de la Ligue on aura la chance de rencontrer le 25 octobre de l'Ontario à l'édition de Livre en liberté à Montabel et à l'Ontario. L'invité de l'un de cette édition qui finira bien sûr son recueil de nouvelles, deuxième recueil de nouvelles, la plus solide, par une très belle édition dans une nouvelle porte de titre du roman qui arrive sur le petit. Voilà, on va accueillir le bonheur, mais je vais pas le dire. Merci Weber pour cette toute dernière partie sur le livre. On passe à présent à l'éditeur pour la rubrique du livre de la semaine.
C'est le livre de la semaine du Conseil de Dieu qui concerne de Gaël Victor. Je l'appelle Gaël Victor, un romancier et nouveliste artiste et politique. Il est la traduction créole de Le Petit d'Antoine de Sécurité, qui pourtant a été publié pour la première fois en 2010 avec le support de la DLM, la Fédération Communication de la Métropole, l'Organisation de la Société pour l'Éducation et la de la Culture et l'UNESCO et l'Organisation Internationale de la Francophonie et l'UNESCO. Il vient d'être édité l'année dernière par les éditions Secret. Si le temps de Gaël Victor raconte la même histoire que du petit prince de la Francophonie, il est question de l'enjouateur de vie quand on accident dans le désert du Sahara. Moins de faim et de soif, il ne va pas dans le niveau, patiente, vous passez à la rencontre de petits princes qui finit par activer en lui la passion pour l'art. Le petit prince est aussi ce petit garçon qui nous sort de nulle part, mais d'une autre planète, venant donner au narrateur une leçon de vie, d'amour et d'expérience. C'est aussi ce petit garçon qui pose des tas de questions pour appréhender le questionnement qui va être du parapluie. Il pose des questions sur l'expérience des hommes sociaux, sur l'égoïsme et sur l'individualisme de l'humain. Le petit prince est le texte de l'amour, de l'amitié et de la vie, du vivre ensemble aussi. C'est donc une œuvre dans laquelle se déroule un message d'altérité. Voilà pour le résumé du récit du Conte d'anticipation de Daniel Victor. Je vous conseille non seulement de lire cette traduction, mais aussi de lire les deux œuvres de Daniel Victor. C'est tout de suite pour passer la vidéo de la semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de l'Ecole de la semaine.
Le petit prince là est traduction créole de le petit prince le plus recommandé cette semaine par un livre d'auteur dans sa revue. Le livre de la semaine, autant que je me rappelle le bien, le petit prince a été l'objet d'une note publiée dans le quatrième numéro de la revue Les Voilà, les auditeurs, les fidèles compagnons de Rouge de Page sont invités à redécouvrir ou encore à découvrir, si vous voulez, pour ceux qui n'avaient pas encore fait, les petits prêtres de cette épidémie et aussi la version créole du Gaïd du Corps, qui prêtent publié en fait l'année dernière. De façon classique ou traditionnelle, la traduction peut être définie comme le passage d'un texte d'une langue naturelle dans une autre. Ce qui signifierait que la traduction est un exercice qui met face à face l'idée de compréhension et d'interprétation. En effet, depuis la Renaissance, nous disent John et Jackson et Liv Dost, la production littéraire a souvent été de pair avec une activité de traduction elle-même liée à la transmission des œuvres de la culture antique. Preuve que les œuvres des auteurs comme Homère, Virgile, Ovide, Horace, sans oublier les tragiques grecs comme Sophocle, Euripide et Phil, ne seraient pas arrivées juste à nous. Quel rapport la traduction entretient-elle avec la création littéraire? S'agit-il d'un simple exercice de mettre des mots ou des idées dans une autre langue? Quel est le poids des références intertextuelles et culturelles dans tout projet de traduction? Le traducteur n'est-il pas également un écrivain au même titre que l'auteur du texte traduit? Nader Minar est docteur ès lettres de l'Université de Pennsylvanie et professeur à l'École normale supérieure de Port-au-Prince, auteur d'articles dans plusieurs revues de journaux tels l'International Journal of Francophone Studies, Conjonction, Journal of the Health and Studies et le Cahier des Anneaux de la Mémoire. Elle est également co-auteure du livre Études d'Haïti, Perspectives sur la littérature haïtienne contemporaine 1986-2006, un livre publié en 2011 aux éditions Cartalan. Bonsoir Nader Minar et bienvenue à Livre Neuf.
Bonsoir à tous et à toutes et merci de m'accueillir ici aujourd'hui.
Voilà, et Nader Minar, on te reçoit aujourd'hui autour de la thématique de la traduction, mais juste avant, je sais que tu as animé avec Régine Michel et Jean-Charles et un blog, ça s'appelle Tandé.
depuis avril 2010, mais en fait, depuis avril 2010, vous animez ce blog, mais il paraît que depuis le mois de mai de cette année, le blog tendait à disparaître de la toile.
Bon, il n'a pas disparu puisque toutes les archives sont toujours en ligne et toujours disponibles aux lecteurs. Mais bon, puisque Régine et moi sommes occupés avec d'autres projets professionnels et personnels en ce moment, on a dû prendre une petite pause, mais on espère qu'on pourra revenir avec le blog.
On se dit ça bien, parce que c'était un blog sur la culture et la littérature haïtienne. Il y avait pas mal d'informations sur ce qui se passe dans le domaine culturel en Haïti, sur la littérature, des textes critiques que vous publiez également. J'espère que També sera de nouveau et sur la toile. Et c'est ça, dans un avenir pas trop loin, non?
Ça, je ne peux pas le dire.
Ben, la traduction, je sais que tu es professeur à l'UNS, je viens de le dire tout à l'heure, et tu as fait une thèse sur les récits de l'occupation, c'est ça?
Les romans, oui.
Les romans de l'occupation, et c'est une thèse tout en anglais.
Oui.
Mais c'est sur des textes que tu as lus en français, le nègre masqué et le texte de cliente Valter la Blanche Négresse et les textes de Fernand Hubert, les simulacres.
Hein? Oui, ce sont des textes écrits par des auteurs haïtiens et en français.
Oui, mais tu as fait un travail, c'est en anglais ton travail, les textes tu les as lus en français. On est là pour parler des traductions, mais juste avant, j'aurais bien aimé que tu nous dises comment toi tu cernes la problématique de la traduction.
Comment cerner la problématique de la traduction? Bon, pour moi, la traduction, c'est quelque chose d'essentiel, puisque ça permet d'avoir accès à des textes, à des livres qu'on ne connaîtrait pas si on ne connaît pas la langue d'origine. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Je pratique la traduction en consommant donc des livres traduits et je produis aussi de la traduction en traduisant des textes, surtout littéraires, soit de l'anglais au français ou au créole ou du créole ou du français à l'anglais. Donc, je pense que la traduction c'est quelque chose d'essentiel, en même temps c'est quelque chose d'extrêmement complexe et difficile. Parce qu'on a toujours l'impression en tant que lectrice que la traduction qu'on lit n'est pas tout à fait le texte original, qu'on est en train de rater quelque chose ou de passer à côté de quelque chose. Et en tant que traductrice, je dois dire que je ressens la même chose, c'est-à-dire j'ai l'impression que la traduction, elle peut être bonne, elle peut être satisfaisante, mais ce n'est jamais exactement ça.
Donc ce n'est jamais le même texte qu'on lit quand on lit un texte traduit.
Non.
Il y a des glissements et qui passe, que ce soit au niveau de la langue ou au niveau de la langue de départ, et aussi au niveau de la culture.
Oui,
c'est bien.
Oui, il y a toujours quelque chose qu'on n'arrive pas à transmettre.
Mais est-ce que, je ne sais pas, on peut voir la traduction comme étant comme étant ce que je pourrais appeler un discours rapporté.
Un discours rapporté.
Est-ce qu'on peut parler de la traduction comme étant un discours rapporté, une adaptation, une réécriture d'une œuvre, et si l'on se compte des états qui peuvent exister, tu viens d'en parler.
Non, je pense qu'il y a quand même des différences importante entre la traduction et une adaptation. Les adaptations, ça existe. On peut décider, par exemple, de prendre une pièce de théâtre et de l'adapter pour la mettre dans un autre contexte, dans un autre temps, une autre époque, etc. Ça, c'est une adaptation. Une traduction essaie toujours d'être fidèle, tout en sachant qu'on n'arrivera jamais à reproduire exactement le texte original.
Alors, quand je parle d'adaptation, je pense à... Et j'ai eu à travailler sur les rapports de Marie-Claude Fauvert. Il y a des passages dans le texte original qui sont vraiment, vraiment difficiles, pour ne pas dire impossibles, à mettre dans une créole. Jésus fait un appel à la culture créole, tout ça, c'est à sa réalité, et pour pouvoir les transposer et voir comment ça va passer. Et du français, le texte du départ, au créole, qui est la langue cible. Maintenant, là, je me suis dit, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une forme d'adaptation du texte original à la langue et à la culture cible, la langue secondaire, le créole, ou c'est pas n'importe quoi, si on choisit un texte de l'anglais au français. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on se voit obligé d'adapter ou de réécrire certains passages?
Non. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. C'est-à-dire, je ne pense pas à une culture, peut-être une culture de départ, mais pas à une culture cible, puisque quand je traduis en français ou quand je traduis en anglais, je ne sais pas qui va lire ce texte. Tous les francophones ne viennent pas du même pays, pareil pour tous les anglophones. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de bien comprendre, bien saisir le texte de départ pour pouvoir le rendre dans le texte, dans la langue cible. Mais je ne me demande pas si je dois adapter culturellement, non.
Oui, parce que la culture aussi, ça interdit beaucoup. La langue, c'est un ensemble d'éléments qui appartiennent à la culture. Et moi, je sais que la règle est un petit peu différente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la traduction, et tout à l'heure, vous avez dit que la traduction n'est jamais, je suis d'accord, n'est jamais l'égal de l'œuvre originale, de l'œuvre de départ. Ce qui fait que le critique qui travaille sur l'œuvre, par exemple, je travaille sur un auteur italien, je suis supposé lire le livre en italien, ou est-ce que le critique qui travaille à partir d'œuvre de traduction n'est pas, il ne fait pas un travail d'avance à l'effet, puisque on a toujours tendance à avoir un discours politique, assez politique de Baudelaire, vu par les Américains, alors que les Français ne reconnaissent pas ce Baudelaire-là. Est-ce que la critique, doit éviter le texte traduit pour aller vers le texte original?
Bon, je pense que un critique littéraire qui choisit de travailler sur un auteur en particulier va faire l'effort d'apprendre à lire et apprécier cet auteur dans sa langue originelle. Maintenant, quand on parle de critique en ce qui concerne les appréciations des livres dans les journaux, dans les revues, les notes de lecture, ça c'est différent. Et bien sûr qu'on peut avoir recours à des traductions. Mais au niveau d'un travail universitaire, de critique littéraire, je pense qu'on travaille le plus souvent avec le texte original, justement pour éviter le genre de problème que tu as évoqué.
Oui, justement, je suis d'accord. Il y a également une partie de la critique littéraire, parce que je crois qu'il y a un article dans ce quartier de la littérature de Patricia Martinez, qui essaie de voir l'ensemble des traductions de Beckett, de l'œuvre de Beckett et de Joyce, qui essaie de les comparer en vue de faire une critique de la traduction, d'essayer de voir comment est-ce qu'un traducteur A, encore un traducteur X, est passé à côté d'une phrase, par exemple, là où Beckett parlait de, là où Joyce parle d'une pomme, d'une pomme de terre. Et il y a quelque chose que j'ai entendu dire tout à l'heure qui appartient à la culture irlandaise et qu'on ne doit pas traduire par pomme en français, qui devrait être traduit en fonction, en tenant compte de la culture, de la cible, la culture cible, la culture de l'auteur, la culture dans laquelle l'œuvre a été publiée. Est-ce que ce travail de critique de la traduction, est-ce que tu le pratiques? Est-ce que tu pratiques ce motif de critique de la traduction? Est-ce que c'est un problème, un thème qui vous intéresse?
Je n'ai pas vraiment pensé à cet aspect de la question. C'est vrai que c'est un travail intéressant de comparer le texte original et le texte traduit pour voir justement où sont les écarts et comment est-ce que le texte aurait pu être mieux, quoi. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai eu à faire, non.
Et au cours de l'histoire, il y a eu deux grandes tendances à être développées au niveau de la traduction. Il y a la traduction, d'une part la traduction littérale, et qui essaie de rester un peu fidèle et au texte de départ, mais ce qui risque de créer chez le lecteur ce que l'on pourrait appeler une sorte de défamiliarisation. Donc le lecteur se défamiliarise avec le texte de départ quand il lit la traduction. Il y a une compréhension moindre. Et de l'autre côté, il y a la traduction littéraire. Et dans cette forme de traduction, le traducteur, il a cette possibilité d'intervenir dans le texte. Il peut même essayer de créer. Voilà, c'est ce qu'on appelle la création littéraire. Est-ce que toi, dans ton travail de traductrice, ça t'est déjà arrivé, toi, de faire un travail de création littéraire dans ton texte, ou est-ce que tu es toujours dans la traduction littéraire?
J'essaie de ne pas trop créer, non. Pour moi, ce qui m'intéresse quand je traduis un texte littéraire, c'est de rendre ce texte disponible et accessible pour ceux qui ne connaissent pas la langue d'origine. Et je pense que le plus souvent, je traduis des auteurs que j'aime et dont j'apprécie les œuvres. Et donc, je trouve qu'ils ont déjà fait un bon travail et qu'ils n'ont pas besoin de moi pour les aider. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est de rendre du mieux de mon possible le texte original dans la langue cible, que ce soit la langue de départ et la langue d'arrivée.
Donc, sans domestication du texte sous quelque forme, quel soit.
Non, parfois, dépendamment de où le texte traduit sera publié, parfois j'utilise les notes en bas de page. Mais je ne fais pas d'adaptation ni d'explication à l'intérieur du texte même. Donc, parfois, l'édition peut demander des notes.
Oui, des notes pendant qu'on est aux notes de bas de page. Je me rappelle de la formule de Domenico, qui est traducteur lui-même, qui a dit que les notes de bas de page sont la lettre du traducteur. C'est que le traducteur se trouve dans l'incapacité de faire son travail, c'est-à-dire de traduire l'expression ou encore la phrase. Il est obligé d'avoir recours aux notes de bas de page pour expliquer au lecteur. C'est un problème, tout comme le titre de Georges Lévy aujourd'hui, le problème théorique de la traduction, c'est un problème que le traducteur, au fond, le traducteur se comprend, puisque le traducteur est censé apporter, encore, rendre disponible lui dans une autre langue. Puisque s'il se trouve qu'il est maintenant recours à des notes de bas de page, il y a toujours des concepts vernaculaires, je pourrais dire. Il y a un problème quelque part qui fait qu'une traduction n'est jamais parfaite. Est-ce que vous êtes d'accord?
Bon, j'ai dit dès le départ qu'une traduction n'est jamais parfaite. Mais pour les notes, malheureusement, ce n'est pas toujours les traducteurs qui choisissent. C'est comme pour les livres, pour le texte original. Parfois, c'est l'éditeur qui demande à l'auteur d'inclure les notes de bas de page, et ça arrive assez souvent aussi pour les traductions. Même quand on voudrait laisser le texte tel quel, même s'il y a des concepts qu'on a l'impression que peut-être tout le monde ne comprendrait pas, on a l'impression de laisser le texte parler de lui-même. Parfois, l'éditeur demande des notes explicatives.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus difficiles à traduire que d'autres, par exemple? Je suppose que la poésie, je ne suis pas traducteur, que la poésie serait donc plus difficile à traduire qu'un roman. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont plus faciles à traduire que d'autres?
Bon, comme tu as dit, la poésie présente beaucoup plus d'obstacles et de complexité que la prose. la prose, on a l'avantage d'avoir une phrase construite, des paragraphes. Et donc, oui, là, c'est plus facile à traduire, même quand c'est un texte littéraire. On a plus de marge de manœuvre. Avec la poésie, c'est beaucoup plus difficile. Je suis en train de traduire des poèmes de Georges Capra, qui sont en créole, mais qui font appel aussi en français. Et là, je les traduis en anglais, donc dans une langue, dans une seule langue. Et je dois quand même faire passer cet aspect de jeu de mots qui traverse, qui chevauche de langue dans la langue cible, qui elle est unique, seule. Et donc, oui, la poésie pour moi présente plus de complexité, mais bon, il faut bien essayer de le faire.
Est-ce que passant du genre à la langue, est-ce que je suppose qu'il est plus facile de traduire un texte dans une langue à une autre qui sont de la même famille de langue, qu'on appelle famille de langue en linguistique, par exemple? Ça va être plus facile de traduire un texte du créole au français que de traduire sur un texte du créole à l'anglais. Est-ce que vous pensez que ça
nécessairement
comme problème?
Pas nécessairement. Je pense qu'il y a au contraire beaucoup plus de beaucoup plus de pièges quand on traduit du français au créole ou du créole au français. Premièrement, au niveau du vocabulaire, parce qu'il y a des mots qui se ressemblent. Donc, on est tenté de laisser la majorité des mots, ou une grande partie des mots tels quels, même quand il y aurait des mots qui seraient plus appropriés. Il y a aussi de grandes différences de structure entre ces langues, et je trouve que le créole, en fait, a une structure grammaticale qui se rapproche beaucoup plus de l'anglais. Et donc, en anglais, je peux facilement laisser la phrase créole telle quelle au niveau structural et remplacer, par exemple, les mots. Et donc, les deux présentent des problèmes, je ne pense pas que ce soit plus facile de faire du français au créole.
Donc les deux langues, que ce soit le créole et le français, présentent des problèmes. Qu'est-ce qui échappe à un lecteur quand il lit un texte un texte en traduction? On va revenir après cette pause de nuit pour cette question. Je vous invite à écouter Mona Lisa de Nat King Cole.
Thank you.
rappelle que nous recevons l'espace de Livre Neuf, ce dimanche 12 octobre, l'Indéminor, qui est littéraire et professeur à l'Université d'État de Ville, et qui est un département supérieur. Et avec elle, aujourd'hui, on parle de la thématique de traduction. Voilà, et généralement, ici, on lit, on est francophone, nous sommes francophones, nous lisons des textes d'auteurs qui sont généralement traduits. Par exemple, si je ne sais pas si tu fais un cours sur la littérature antique, si tu vas lire ce port avec tes étudiants. Bien, ce sera des textes de Sophocle traduits en français. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui échappe à un lecteur qui lit un texte en traduction?
Et on ne peut pas savoir ce qui échappe au lecteur. Premièrement, c'est pas sûr que c'est la même chose qui échappera à tous les lecteurs. Chaque lecteur va tirer quelque chose du texte, comme pour le texte original qui n'est pas traduit, c'est la même chose pour la traduction. Et le plus souvent, ceux qui lisent les traductions, c'est parce qu'ils ne connaissent pas justement la langue originale, la langue de départ, et donc ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils sont en train de raconter. Ce qui est peut-être une bonne chose.
Hein? Mais on ne lit pas toujours le même livre, hein, si je comprends bien quand le texte est traduit.
Bon. Alors, si c'est une bonne traduction, on lit quand même le même livre avec, je vais dire, qui est peut-être un peu plus pâle que le livre original, mais ça devrait être le même livre pour une bonne traduction.
Par exemple, la Divine Comédie de traduit de Jacqueline Rousset, je suppose que c'est pas le même texte, parce que Jacqueline en a fait une traduction qui respecte la structure du texte. C'est pas ce qu'il compte. C'est des vers. Voilà, c'est un vers. Mais il y a une autre traduction. J'ai oublié le nom du traducteur, mais c'est en prose. C'est pas le même texte qu'on lit, hein.
Je suppose. Le texte qui reste fidèle à la forme du texte original et qui essaie de rendre les mêmes personnages, les mêmes intrigues, tout ça. On dit que c'est une traduction qui essaie d'être fidèle. Maintenant, il y a des traductions qui sont plus créatives. Mais là, on s'approche beaucoup plus de l'adaptation. Mm-hmm. D'accord. Mais si un texte est en vers, on va le traduire et le rendre en vers. Si il est en prose, on le traduit et le rend en prose. Donc, on fait une adaptation.
C'est quelque chose qui sera plus difficile lorsqu'on traduit, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la traduction poétique, lorsqu'on traduit un poème en vers. Et puis on est obligé de respecter dans la langue B, dans la langue allemande, la rectification, les mots ne se prononcent pas de la même façon dans les deux langues. Et je pense que le traducteur est un peu fait appel à son imagination, à sa faculté de créer. Est-ce que vous pensez que le traducteur doit normalement être un écrivain?
Bon, on dit que parfois la meilleure. Les traducteurs, ce sont les écrivains, surtout en ce qui concerne les textes littéraires. Et quand on rentre dans le domaine poétique, c'est encore plus le cas, puisque justement, il faut respecter cette question des associations, du rythme du texte. Il ne s'agit pas seulement de rendre le sens, mais aussi le rythme, les sensations produites par ce texte-là. Donc oui, ça peut aider d'être aussi écrivain. Tout à l'heure, on a parlé de la traduction littéraire, Selon moi, la traduction littéraire, c'est un piège. De la mesure où le traducteur ou la traductrice qui traduit n'arrive pas à tout traduire. J'ai pour exemple ce qui concerne des traducteurs. Pour moi-même, j'ai remarqué que ce qui concerne cette traduction littéraire, parce que Darwin n'a pas pu arriver à tout traduire dans son texte. Par exemple, il y a des mots et des passages que Dali ne peut pas traduire. Par exemple, il a même ajouté de nouveaux mots dans le créole haïtien. Est-ce que le traducteur, selon vous, Madame Mouna, est-ce que la traduction littérale
ce n'est pas un piège.
Bon, je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi la différence que vous établissez entre traduction littérale et traduction littéraire.
Ce qui permet, dans la traduction littéraire, le traducteur il a beaucoup plus de liberté, il peut créer. Oui, on est dans la création littéraire, il peut même essayer de réécrire le texte parce que, et tu l'as dit tout à l'heure, les meilleurs traducteurs, ce sont généralement les écrivains. Donc, il a cette possibilité d'intervenir dans les textes en créant, en recréant des passages,
une adaptation même de la culture.
Oui, il a besoin d'une adaptation, mais dans la traduction littérale, c'est que le traducteur, il essaie de rester le plus proche du texte du départ, du texte original.
Ça peut arriver que le traducteur traduit mot en mot dans la traduction littérale.
Oui, c'est pour ça qu'on parle de traduction littérale, donc c'est le mot en mot. Moi, je crois que je suis plus proche de la traduction littéraire, parce que là, je peux intervenir dans le texte.
Mais quand le traducteur intervient dans le texte, ce n'est plus le texte de départ. C'est-à-dire, si je décide de traduire le Petit Prince, et je me dis que je vais intervenir dans le Petit Prince, dans le texte de départ, c'est plus le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est maintenant une adaptation du Petit Prince qui est en élève mineur. Et il faut le libérer ainsi, ce qui ne pose pas de problème. Mais quand le lecteur s'attend à trouver les mots de Saint-Exupéry ou le texte de Saint-Exupéry, tel qu'il les a écrits, mais dans une autre langue, parce qu'il ne lit pas le français, là, il faut respecter le plus que possible le texte de départ. Sinon, on est en train de donner au lecteur quelque chose qu'il n'a pas demandé, qu'il n'a pas voulu peut-être.
Par exemple, il y a des mots qui n'existent pas dans l'écriture. Par exemple, si je prends bois, le mot bois, en tant que mot français, n'existe pas dans l'écriture. Daline a laissé ça comme ça. Bois.
Bois, le serpent.
Le serpent, oui. Il n'y a pas bois dans l'écriture. Je me demande dans mon texte, est-ce que c'est un prétexte d'ajouter de nouveaux mots?
Il aurait pu traduire bois par un serpent, ou encore, je ne sais pas, un gros serpent.
Bon, de toute façon, il y a toujours des choix du traducteur, mais la langue, c'est quelque chose qui bouge et qui change, qui évolue. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'un mot n'existe pas aujourd'hui qu'il n'existera pas demain.
Justement, il faudrait savoir ce que le traducteur apporte à la langue, puisque le traducteur traduit l'œuvre. Est-ce qu'il ne fait que jouer son rôle de parteur, entre deux hommes, mais uniquement un rôle d'intermédiaire? Est-ce que ce traducteur n'intervient pas dans la langue? C'est-à-dire, il essaie d'apporter un nouveau regard, de nouveaux mots, comme on dit en ligne. Le traducteur, est-ce qu'il ne modifie pas la langue?
Je pense que ce que le traducteur peut faire, en fait, c'est de rendre plus visible des mots qui sont déjà dans la langue. C'est-à-dire, si on traduit un texte littéraire et on trouve un mot banal qui rend le sens, mais qui n'arrive pas à rendre soit le rythme, soit la sensation créée par ce verbe particulier dans le poème de départ ou quelque chose de ce sens, on peut aller à la recherche d'un mot qui existe déjà dans la langue, mais qui n'est peut-être pas tellement utilisé ces jours-ci ou qui est peut-être restreint à une catégorie de la population ou qui est utilisé dans les lieux savants ou dans, je ne sais pas, on peut raviver un peu différents mots. Ce n'est pas un travail de création, mais je pense que ça enrichit quand même la langue parce que le lecteur, maintenant, peut trouver un mot qu'il ne connaissait pas, qui était là, qu'il avait droit à l'utiliser, mais qu'il ne connaissait pas. Et donc, le traducteur rend ce mot-là dans sa propre langue disponible.
Et je me rappelle avoir lu, peut-être dans la revue Conjonction, je me rappelle je ne me souviens pas du numéro, et il y avait une traduction de Rimbaud, Une saison en enfer. Hein, c'était traduit par, en créole, Une saison en enfer. une saison en Angleterre. Est-ce que là, comment tu vois comment tu vois la traduction du titre français en créole? Une saison en Angleterre et une saison en Angleterre.
Bon, ça va dépendre de la traduction du texte lui-même, parce que le titre vient du texte. Et donc, dépendamment de la façon dont on a traité ce concept de l'enfer dans le texte traduit, comment est-ce qu'on le rend, comment est-ce qu'on le traduit, ça me dira si le titre est approprié ou pas. Mais je ne peux pas me prononcer à partir de ce titre, parce que les traductions ne portent pas toujours, et on le voit assez souvent, quand les textes sont traduits, assez souvent on choisit un autre titre qui n'a rien à voir avec le titre de départ. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on ne pouvait pas traduire le titre original, mais parce que la connotation n'était pas la même.
Par exemple, le texte de Daniel,
il y a beaucoup de traduits en anglais. En anglais, comme je crois que Daniel est un dictateur.
Oui, dîner avec un
dictateur. Oui,
ce qui n'a rien à voir avec.
Est-ce que le capitaine ne serait pas un travail de création? Parce que où a-t-il eu l'idée de trouver ce titre? Parce que le titre, c'est quand même le but de la vie.
Daniel va
traduire le temps de dîner avec le dictateur. Même si ça parle de la dictature, mais est-ce que le traducteur ne fait pas un travail de création?
C'est pas un travail de création, c'est peut-être il a choisi un titre qui met l'accent sur une autre partie, un autre aspect du texte. Ça peut aussi venir de l'éditeur. Ça arrive assez souvent. La majorité des textes de 1224 traduits en français, les titres n'ont rien à voir avec le titre de départ. Il y a plusieurs raisons pour ça. Par exemple, parfois, un titre qui paraît très original dans sa langue de départ, il y a aussi déjà un livre qui existe avec ce titre dans la langue d'arrivée. Et on ne va pas publier deux livres dans le même style avec le même titre. Donc il y a toutes sortes de raisons qui
font que. C'est ce que Mounet appelle les problèmes théoriques de la traduction. Et pendant qu'on est à Mounet, Mounet parle des traducteurs comme étant des pitailles.
De l'armée, des soldats de la grande armée des écrivains sont
oubliés généralement.
Et leurs noms sont inscrits dans le livre en tout petit caractère possible. Ce qui fait que les traducteurs sont en question qui est dans l'ombre.
Voilà,
pour un travail d'armée, c'est le nom de l'écrivain. Je pourrais vous laisser. Est-ce que.
Allez, c'est là que je voulais arriver.
Bien sûr. Est-ce que le traducteur n'est pas, ou encore ne devrait pas être considéré comme un auteur à part entière? Le texte est quand même son texte, et il suppose les droits du traducteur, on a fait une émission sur les droits, et le traducteur a donc des droits sur le livre, il reçoit des droits comme son auteur, et surtout des traducteurs qui traduisent des textes qui sont dans le domaine public, mais le nom du traducteur est écrit avec
un petit caractère, des fois c'est juste à l'utiliser du livre, c'est pas que la première de couverture. Des fois, c'est juste à l'intérieur,
la page de
fin. Enfin, on oublie même les
traducteurs. Oui, bien sûr, on peut même l'oublier. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'est pas nécessaire de faire un plaidoyer pour le traducteur, pour qu'au moins on puisse non seulement parler de l'auteur, mais aussi du travail des traducteurs?
Bon, je pense qu'on parle du travail des traducteurs, c'est-à-dire les gens qui lisent souvent des livres en traduction savent les traducteurs qui font du bon travail. D'ailleurs, on va dire, surtout pour les classiques de la littérature mondiale, il peut exister de nombreuses traductions. On va dire, je vais plutôt lire la traduction de telle personne parce que je sais que c'est un bon traducteur.
Là, tu parles du lecteur averti.
Oui. Mais le traducteur, son travail, c'est de rendre un texte qui existe déjà. Je pense que s'il voudrait avoir son nom en grandes lettres sur la couverture d'un livre, c'est ça. D'accord, parce que bon, c'est un choix.
Oui, mais il y a peut-être un autre problème pour les traducteurs. Moi, je suppose que ce problème est lié, parce que je sais que l'œuvre littéraire, je pense que c'est la chose la plus complexe qui peut se discuter. Parce que le roman, un roman par exemple, écrit par quelqu'un, c'est pourquoi on doit faire une part des intentions, des intentions de l'œuvre,
l'intention lectorique qui est l'intention du lecteur qui lit le texte, et l'intention autorique qui est l'intention de l'auteur. Maintenant, quoi traduire lorsque le traducteur est en face d'un texte? Est-ce qu'il traduit l'intention de l'auteur,
du lecteur, ou en
traduit l'intention du lecteur, ou est-ce qu'il traduit l'intention de l'œuvre, indépendamment de ce que pense le lecteur, ou indépendamment de ce que peut penser le lecteur, ce que l'œuvre dit?
Et en elle-même,
est-ce que le traducteur fait un choix?
Qu'est-ce qu'un traducteur?
Moi, je pense que le traducteur traduit ce qu'il lit. C'est-à-dire, c'est son expérience du texte qu'il est en train de rendre. Et c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs traductions d'un même livre, d'un même texte qui ne se ressemblent pas identiquement. C'est toujours son expérience du livre qui traduit. Est-ce que, selon vous, Madame Mena, la traduction, ça a enrichi la littérature? Par exemple, j'ai lu « Cocade rouge » de Jocelyne Couillot, le petit chapeau en rouge, et j'ai lu aussi « C'est pour ça des allusions ». Est-ce que, selon vous, ça a enrichi la littérature? Ah oui, certainement, puisque de la même façon que le texte original rentre dans une tradition littéraire, il y a plein d'intertextualité, etc., tout cela est multiplié avec la traduction. Donc oui, c'est sûr que ça a enrichi la littérature.
Donc la traduction, ça rend service à la littérature. Là, je pense à Walter Benjamin, qui a fait un livre, ça s'appelle, en fait, un tout petit livre, ça s'appelle Paris, capitale du 19e siècle. Ce livre est apparu en 1939, juste une année avant la mort de Benjamin. Donc, quand il a fait ce livre avant, il avait eu à dire que Paris, c'est la capitale du 19e siècle. Et ce qui fait qu'il a prononcé à faire une telle affirmation, c'est parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'œuvres à être traduites en France. Il a dit que Paris, c'est la capitale du 19e siècle. Donc, c'est pour te rejoindre un peu quand tu dis que la littérature, en fait, la traduction, ça rend service à la littérature.
Il y a peut-être une dernière question que je voulais poser qui est assez politique pour moi. C'est un problème que j'essaie d'aborder. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de traduire des textes en créole?
Est-ce qu'il est nécessaire de traduire des textes en créole?
Est-ce que ça vaut la peine, sachant que ceux qui vivent en Afrique en français, est-ce qu'il y a un lectorat créole, ceux qui prennent un livre, est-ce qu'ils ne sont pas automatiquement des lecteurs français ou francophones? Est-ce qu'il est nécessaire de traduire des textes en créole?
Bon, je pense qu'il est autant nécessaire de traduire des livres en créole qu'il est pour les traduire, de les traduire dans n'importe quelle autre langue. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est bilingue qu'on est forcément attiré par la lecture dans une langue prédéterminée. Je peux avoir le choix. Un livre écrit en allemand, rien ne dit que je vais préférer le lire en français qu'en créole. Je peux choisir l'une ou l'autre, si les deux sont disponibles. Malheureusement, chez nous, le plus souvent, c'est une seule qui est disponible et donc le choix est déjà fait pour nous. Mais c'est toujours mieux d'avoir plusieurs choix.
Oui, mais est-ce que tu penses qu'avec la traduction de plus en plus de textes en créole, ça peut aider à avoir une littérature d'expression en créole?
Oui, si on dit que la traduction enrichit la littérature, c'est plus de matières littéraires à explorer pour les lecteurs et pour les écrivains futurs. Et donc, ça, c'est sûr que ça ne peut pas gêner de toute façon.
Et au début, en fait, au tout début de l'émission, tu avais dit que tu as l'habitude de traduire des textes de l'anglais au français, du français, en fait, du français à l'anglais, et du créole aussi?
Oui.
Au français?
Oui, ou bien à l'anglais.
Et si tu as un projet de traduction, où tu travailles sur quoi maintenant?
Je viens de terminer avec ma mère, Jocelyne Couillot, un projet de traduction d'un livre d'une anthropologue haïtienne qui vit aux États-Unis et qui veut sortir une édition trilingue de son livre. Donc, on a traduit le texte du départ qui était en anglais, on l'a traduit en français et en créole. Et actuellement, je travaille sur un autre projet de livre avec des collègues historiens et critiques littéraires. Et là, on traduit toute une série de textes haïtiens, donc en français et en créole, et on les traduit en anglais.
Donc, le nom d'un anthropologue, tu ne veux pas le dire?
Oui, c'est Gina Yulis, le livre de François l'année prochaine.
Merci, Nadège Ménard. Voilà ce qu'on fait à cette édition de quatre livres. Le nom reste, en fait, du livre neuf, pardon. Il ne nous reste qu'à remercier Nadège Ménard d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, Nadège Ménard.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Merci à vous aussi, auditeurs et auditrices, qui nous avez prêté oreille forte. Le plaisir a été pour nous de vous apporter cette émission. Je rappelle que Livre Neuf est une émission proposée par la radio Magic Neuf en partenariat avec la Rosinog et Littérature. La technique Wilhelmse Joseph, la présentation de Jolène Santé-Pierre, Militaire Universal. Livre Neuf est une émission proposée par la radio Magic Neuf et la revue L'aide et littérature qui est une amie de la DML, la direction nationale du livre. Allez, on se retrouve dimanche prochain pour une autre émission de nos ans. Au revoir.
Machine 9.